Rousseau, il parle de pitié fondamentalement, mais il peut utiliser d'autres mots, et par exemple, commisération. Non, il n'utilise pas ce mot-là. Fraternité, c'est un terme qui vient par la suite fondamentalement et qui est lié quand même à la Révolution française. Les citoyens qui sont des frères, mais ça pose d'autres problèmes, la fraternité. La question de la Révolution française qu'on n'a pas réglée, c'est quoi? C'est comment peut-on être frère quand on a tué le père? Est-ce qu'une fraternité d'orphelins existe? C'est la question fondamentale que pose la Révolution française et qu'on n'a pas réglée aujourd'hui. Comment peut-on être frère entre orphelins qui ont tué le père sans tomber dans le drame de Caïn et Abel? Non, Caïn et Abel. Non, le drame de Caïn et Abel, c'est les frères qui s'entretuent. C'est Caïn et Abel. C'est la grosse question qui se pose. Et c'est une question, on ne va pas développer ça, centrale, qui a été posée dès la Révolution française et qu'on n'a pas résolue. Fallait-il tuer le roi? Et beaucoup de gens n'étaient pas d'accord pour tuer le roi, hein, les révolutionnaires. Ils sentaient le problème. Et ça pose le problème suivant. Je crois que c'est la mort de roi qui explique qu'aujourd'hui, la vie politique française ne s'est pas débarrassée de la question du roi. Regardez tous les présidents de la République, et Macron, qui est pourtant un jeune homme, éprouve la nécessité de revêtir des habits de roi. Macron a tout fait pour apparaître comme le roi. Et ça, parce que la place est vide. Et que notre société n'arrive pas à penser une fraternité, on pourrait dire une citoyenneté, autour d'un vide. Bref, je n'insiste pas là-dessus parce que ça nous entraînerait trop ailleurs, mais c'est pour dire que le mot fraternité, bon, on ne peut pas le rendre synonyme là, parce que ça renvoie à d'autres questions que pitié, commisération, etc. Voilà. Je peux accepter sympathie ou empathie en termes contemporains, mais voilà. Pour terminer avec Rousseau, Rousseau dit « La pitié, c'est ce qui nous permet de souffrir avec l'autre et possiblement d'être solidaire de l'autre. » Ce n'est pas un terme qu'il utilise, mais ça peut vouloir dire ça. Alors, d'où vient la pitié? Comment se met en place le mécanisme de la pitié? Rousseau fait appel à l'imagination, à la capacité imaginative de l'homme. C'est-à-dire que l'imagination fait qu'on peut se mettre à la place de l'autre. Même si soi-même, par exemple, soi-même, prenons cet exemple parmi d'autres, on n'a pas connu la faim, on n'a jamais souffert de faim. Donc on ne sait pas concrètement ce qu'est la faim. Mais, par imagination, on peut imaginer et se mettre à la place de quelqu'un qui crève de faim, vous voyez ? Et donc se sentir en proximité avec quelqu'un qui la faim et du coup, possiblement, aller vers lui et l'aider. Voilà, c'est ça, on pourrait prendre tous les exemples possibles et imaginables pour illustrer ce que dit Rousseau de la pitié qui permet d'aller vers l'autre, quoi. Fondamentalement d'aller vers l'autre. Et c'est cette logique-là qui vient en tension contredire l'autre logique de l'instinct de vie. Ou ce qu'appelle aussi Rousseau l'amour de soi. Il appelle ça aussi, à certains endroits, l'amour de soi. Donc d'un côté, si vous voulez, vous avez l'amour de soi, mais qui est contrebalancé par l'amour de l'autre. Voilà, en gros. Voilà, donc on en est là à la veille de notre monde contemporain, sur ces morales établies à partir, au fond, de la métaphysique grecque, c'est-à-dire à partir de la philosophie de Platon, Socrate, etc., dont Rousseau est d'une certaine manière un continuateur, et d'un autre côté, à partir de ce qui est un développement dans l'Europe à partir du Moyen-Âge, c'est-à-dire le christianisme, qui a récupéré la philosophie et les morales grecques anciennes pour faire cette morale chrétienne dont le meilleur aboutissement, c'est quand même Pascal et Port-Royal. Parce qu'il est sans concession, sans hypocrisie. Alors ça, c'est notre héritage. Et c'est à partir de là, et j'insiste beaucoup sur la pitié, que l'on peut imaginer une morale. Kant, Emmanuel Kant, a pensé à partir de là, et tous les moralistes, ou tous ceux qui tentent de s'interroger sur une vie morale, une moralité de vie, pensent dans cet héritage-là. Mais cet héritage va être contrarié et dynamité, et on ne peut pas en faire l'économie parce qu'on en est les héritiers. Par Nietzsche. Nietzsche, comme il faut dire exactement en allemand. Nietzsche. N-I-E, je rappelle parce qu'on fait toujours les fautes, parce qu'en français on n'est pas habitué à autant de consonnes qui succèdent. N-I-E-T-Z-S-C-H-E. N-I-E-T-Z-C-S-C-H-E. Plus vous mettez de consonnes, plus vous êtes sûr que vous ne faites pas de fausse, d'accord? Friedrich Wilhelm. Alors souvent, dans les textes, on a francisé, bon, on retient que Friedrich, et souvent c'est le prénom communément qu'on a francisé, Friedrich Nietzsche. Donc ça, Nietzsche ouvre la fin de la morale, et il ouvre véritablement le XXe et le XXIe siècle. On est des héritiers de Nietzsche, fondamentalement, on est des héritiers de Nietzsche qui vivons sur les débris de la morale. C'est pour ça qu'on a beaucoup de gêne par rapport au mot moral. Si on a beaucoup de gêne par rapport au mot moral, c'est du fait de Nietzsche et de tous ceux qui se sont succédés après Nietzsche. Donc ça vaut la peine de penser avec Nietzsche, qui est de ce point de vue-là incontournable, comme on dit aujourd'hui. Et si je considère mon expérience personnelle, je trouve passionnant de s'intéresser à Nietzsche jusqu'au bout, parce que pour ma part, ça m'oblige à penser contre moi. Avec Nietzsche, je pense complètement contre moi. Et penser contre soi, c'est la meilleure chose, la meilleure garantie.
Oui, ce que disait Sartre.
Mais Sartre y pensait, mais Sartre, on verra, mais Sartre vient aussi de Nietzsche, par beaucoup d'aspects, et même Lévinas, dont on parlera après, pense à partir de Nietzsche. Fondamentalement, c'est inévitable. Ou si vous voulez, après Nietzsche, ben, on n'abordera pas ce garçon. Après Nietzsche, vous avez Heidegger. Et Heidegger, largement, reprend des pans entiers, surtout sur ces questions de la morale, de Nietzsche. On n'abordera pas Heidegger parce qu'on ne peut pas tout aborder. Heidegger a un langage très compliqué, qui a été très mal traduit en français, qui a été traduit volontairement de façon compliquée. Et il y a un monopole via Gallimard, Fédier, etc., des traducteurs via Gallimard d'Heidegger, qui fait qu'ils interdisent toute autre traduction d'Heidegger. Et il y a Emmanuel Martineau, qui est un philosophe français, qui a fait une édition clandestine d'être étant, et il a eu tous les ennuis du monde. Oui, il a eu des procès, Gallimard a demandé à ce que son livre soit interdit, alors il le vendait sous le manteau, donc ça. Et donc il en avait tiré 3000 exemplaires qui ont été épuisés rapidement. Donc Heidegger, on a l'accès en français que de ces traductions de Fédier en particulier, qui sont des traductions qui opacifient complètement Heidegger. Alors ça lui a donné le prestige qu'on connaît en France, mais du coup il est honnêtement déformé et incompréhensible. Donc Heidegger, pour être sérieux, il faudrait vraiment le lire dans le texte allemand. Et le problème d'Heidegger, c'est qu'on est embarqué sur une question morale, hein, justement, qui est qu'on ne peut pas dissocier la pensée d'Heidegger de son existence et de son engagement. Jamais démenti. Vous savez qu'Heidegger a vécu jusqu'en 1970, son engagement dans le nazisme. Non, il n'a manifesté aucun remords, aucune autocritique. Donc, Heidegger, c'est un cas trop compliqué de ce point-là. On va le laisser tomber aussi. Voilà. Mais sachez simplement que l'héritage de Nietzsche, qui façonne notre période contemporaine, passe aussi par Heidegger. On en est là. On a, si on veut penser sérieusement la question de la morale, c'est de vivre en cohérence avec des valeurs, des idées. On a l'héritage que j'ai évoqué, de la métaphysique issue de Platon et qui va jusqu'à Rousseau, Kant, etc. On a l'héritage de la morale chrétienne. Et puis on a le dynamitage complet avec Nietzsche. Alors ça a donné quoi comme paysage? Mais ça donne le paysage actuel, qui est un paysage de désorientation, un paysage que le sociologue Émile Durkheim aurait appelé d'anomie, A-N-O-M-I-E, anomie. L'anomie, c'est A, c'est le mot privatif, l'absence de, et nomie, je rappelle, c'est nomos en grec, l'absence de loi, c'est-à-dire de valeur repère. Donc l'anomie, c'est un monde où l'individu est désorienté, il n'a plus de valeur repère. Pourquoi on peut qualifier notre période actuelle d'anomique? C'est que on est avec une espèce de vertige, dans un mouvement de balancier qui nous balance d'un côté de l'autre, qu'un mouvement de balancier totalement stérile. D'un côté, vous avez la montée en puissance, alors qui est surtout forte auprès de groupes sociaux, mais qui se diffuse un peu partout en même temps, qui est un retour à une forme d'intégrisme moral et religieux. Idéologie, par exemple, c'est l'intégrisme laïque. La laïcité aujourd'hui est devenue une idéologie intégriste. Ça peut être aussi l'intégrisme issu des religions. Mais c'est le même. Donc les religions, c'est aussi bien l'islam que le catholicisme, qu'une forme de protestantisme, par exemple, aux États-Unis, je pense aux évangélistes, par exemple. Aux États-Unis, en Amérique latine, c'est eux qui ont produit Bolsonaro, par exemple, au Brésil, c'est les évangélistes. La base culturelle, sociologique de Bolsonaro, c'est les évangélistes brésiliens. Et aussi, les évangélistes sont de plus en plus en concurrence dans les pays africains aujourd'hui. Donc vous avez l'intégrisme africain et l'intégrisme évangéliste, c'est-à-dire chrétien. Enfin, une forme de christianisme. Donc, ça, c'est le premier pôle. Ce pôle d'intégrisme moral, justifié par une idéologie ou une religion, il consiste à quoi? Il consiste à faire d'idéaux de valeurs propres, personnelles, partagées avec d'autres, des normes sociales. Et quand la morale devient norme, c'est le début de la fin. Des normes qui doivent s'imposer à la société. L'exemple type de cette dérive de l'intégrisme, c'est la manif pour tous. La manif pour tous, voilà des gens qui, légitimement, peuvent considérer que le mariage est sacré, que ça concerne Adam et Ève, je simplifie, et que le mariage ne peut pas s'ouvrir, par exemple, à des couples homosexuels. Donc, légitimement, on peut penser ça pour soi. C'est pas un problème. Chacun peut penser ça pour sa propre morale. La dérive contemporaine, c'est de penser ça comme norme sociale qui doit s'imposer à tous, d'où le phénomène de la manif pour tous. Ou, par rapport à la montée en puissance aujourd'hui des mouvements anti-avortement. On peut refuser, ce qui est tout à fait légitime, l'avortement, et toute femme, je pense, le sait intimement. L'avortement, c'est pas simple. C'est une souffrance. Fondamentalement, l'avortement est une souffrance, je pense. Pour avoir beaucoup parlé dans les années 70 avec des copines qui pratiquaient les avortements dans le cadre d'une LAC, etc., elles le disaient pour les autres. Donc c'est une question compliquée, mais c'est une question qui engage la morale, sa propre morale. Mais maintenant, d'être dans le fait de dire l'avortement c'est la mort, c'est un assassinat, et on impose ces normes à tous, et même on fait des actions commando. Aux États-Unis, vous avez des commandos, même qui peuvent, ce qui est le paradoxe d'ailleurs, tuer dans des cliniques des médecins, etc. Voilà, c'est une autre forme de cet intégrisme moral auquel notre société est confrontée. Alors, c'est une question trop compliquée pour que j'y réponde en un mot, ça va traverser aussi toute notre réflexion, parce que ça dépend ce qu'on appelle loi. Si on entend loi au sens, je dirais, psychanalytique, symbolique, ou même philosophique, au sens, par exemple, de Platon qui a écrit cet ouvrage important qui s'appelle Les Lois. Les lois, c'est ce qui oriente possiblement un sens commun, comme aurait dit Bourdieu, ce qui oriente une société. Mais la question de la loi, c'est qu'elle doit s'appuyer sur un tiers qui est un principe transcendant. Alors c'est tout le problème qu'on va voir avec Nietzsche. Un principe qui ne dépend pas de la volonté de chacun. Ce qu'est la loi pensée par la psychanalyse au fond. Ce n'est pas une décision personnelle ou une convention collective. Alors qu'une norme, c'est une convention collective. Alors du coup, les lois au sens juridique, les lois votées par un parlement, les lois législatives, c'est une convention collective, un consensus collectif. Donc ça renvoie à la norme. Et c'est pour ça que les lois au sens juridique évoluent dans le temps. Elles sont, parce que forcément, le consensus, les normes évoluent. Voilà. Voilà, donc c'est très compliqué. Mais je dirais que du point de vue d'une réflexion de philosophie morale, la seule chose qui importe, c'est de réfléchir sur la loi proche de la définition de la psychanalyse, la loi symbolique. La loi symbolique. La loi qui dit quel cadre pour une humanité, pour être digne du nom de l'homme, d'être humain. Et comme disaient les Grecs, pas barbare, quelle loi? Par exemple, c'est la loi qui consiste à dire tu ne tueras point. L'interdit du meurtre de l'autre. L'inceste. Voilà. Ce sont des lois symboliques qui sont fondées sur un principe, alors qui peut être discutable, mais si on le discute, tout va s'effondrer. C'est ce qu'a fait Nietzsche. Un principe transcendant, c'est-à-dire qu'en gros, ça va être, dans ce cas de ce que j'évoque, une idée de l'homme. C'est-à-dire, l'humain, c'est un principe qui ne dépend pas des volontés et des désirs de chacun, qui est plus grand que soi. C'est un principe de ce qu'on appelle en philosophie transcendantal, une transcendance, c'est-à-dire qui est au-dessus. Mais au-dessus ne signifie pas religieux, hein, pour autant. Ça peut se traduire dans une morale chrétienne ou religieuse ou juive ou musulmane ou autre en termes religieux, mais un principe, il faut le penser d'abord en termes non religieux. Et d'ailleurs, c'est les philosophes grecs antiques qui ont pensé la notion de principe, de premier principe. Par exemple, le bien, c'est un premier principe chez les Grecs. L'unité aussi, le un. Bref, le problème, c'est que Nietzsche va dynamiter ça. Nietzsche va dire, il n'y a pas de premier principe qui tiennent une morale, ce ne sont que des inventions arbitraires des hommes. C'est ça l'acte fondamental qu'a posé Nietzsche. Donc on a, j'en reviens à la situation actuelle, ce balancier entre un premier pôle, que je résume par cette expression l'intégrisme moral, de plus en plus puissant, et qui peut-être devenir dominant dans nos sociétés. Réellement. C'est s'imposer. S'imposer comme une politique collective. Et l'autre pôle qui existe aujourd'hui, qui est extrêmement fort, et qui est une façon d'héritage, une manière d'héritage de Nietzsche, mais un héritage qui s'est corrompu, qui s'est perverti, c'est ce que j'appellerais l'amoralisme libéral, ou la moralité du libéralisme. Alors, j'entends par libéralisme plutôt le sens anglo-saxon que le sens français. Si vous voulez, le mot libéral ou libéralisme en France, c'est quasiment uniquement un sens économique. C'est une conception de l'économie et de la société qui est basée sur le libre-échange des marchandises, si vous voulez. D'accord ? C'est assimilé au capitalisme. Le sens anglo-saxon est un sens culturel et pas économique. Par exemple, aux États-Unis, il faut entendre que les libéraux, c'est des gens de gauche, si on veut comparer les choses. Donc, le libéralisme, c'est ce qui s'oppose dans les pays anglo-saxons au conservatisme, et notamment au conservatisme chrétien aux États-Unis, c'est très clair. Alors, la difficulté, c'est que ce n'est pas sans rapport avec le libéralisme au sens économique. C'est ce qui prône la liberté de l'individu, le libéralisme, d'accord ? Donc, la liberté de l'individu jusqu'au bout, y compris dans le fait d'entreprendre économiquement. Mais aussi, la liberté quant à la façon d'envisager sa conduite de vie. D'accord ? C'est-à-dire qui repose sur son propre désir et sa propre décision. C'est ça le libéralisme, d'accord ? Est venu l'autre pôle qui est très présent dans notre société, au sens où en gros c'est quoi? C'est l'idée communément répandue, quand même encore aujourd'hui, malgré le pôle intégriste, qui est chacun fait bien ce qu'il veut. Oui, mais dans ce qu'on appelle, ce que j'appellerais un self-service généralisé des valeurs. Oui, mais il n'empêche que c'est un self-service. Chacun prend un petit zeste de truc. C'est ce qu'on a appelé aux États-Unis le New Age. Le New Age, c'est typiquement ça, voilà. Alors, c'est une connotation religieuse, mais pas au sens, spirituel plutôt que religieux. On a un petit zeste de bouddhisme, un petit zeste de zen, un petit zeste de, quand même de christianisme, un petit zeste d'athéisme, etc. C'est ça. Oui, aux États-Unis, c'est la même chose. C'est les intégristes du libéralisme aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle les libertariens. Voilà. Qui découle notamment, ils ont un pape qui est cet auteur philosophe qui est David Soho. C'est pour ceux qui ont lu Soho. T-H-O-R-E-A-L. Ça veut dire en gros que les morales se réduisent à des normes qui évoluent en permanence. Ça ne résout pas les questions fondamentales de la morale. Oui, mais tu es trop dans le pôle de l'équivalence, en gros, je pousse ce pôle dans lequel tu es, c'est en gros ce pôle libéral. C'est qu'en gros, en quoi c'est un héritage de Nietzsche? C'est que Dieu est mort. On n'a que Dieu est mort. Alors Dieu, on peut l'entendre comme un premier principe. On peut l'entendre dans un sens de religion. n'y a plus de transcendance, il n'y a plus de premier principe dont Dieu est mort. Vous savez que c'est Nietzsche qui affirme ça en reprenant une formule d'un romancier qui était Dostoïevski, mais pas mort. Dieu est mort, parce que véritablement c'est Nietzsche qui pense ça. Il n'y a plus de transcendance, il n'y a plus de premier principe. Dieu, il n'y a plus quelque chose qui est plus grand que nous et qui, sur lequel découle des préceptes de loi symbolique du type tu ne tueras pas. Donc à partir de là, la conséquence de si Dieu est mort, ben, tout est permis. Oui, mais Dostoïevski n'en a pas fait un développement de pensée, Dostoïevski. Nietzsche reprend la formule de Dostoïevski, c'est tout. Mais c'est véritablement Nietzsche qui pense ça. Il n'y a plus de légitimité aux morales traditionnelles. Donc les morales, il faut les détruire. Ça, c'est le premier mouvement de Nietzsche. Toutes les morales, il faut les détruire. Toutes les morales dont on est les héritiers, il faut les détruire. Parce qu'elles reposent sur l'arbitraire, elles ne tiennent plus. Et tout est permis. À partir de là, tout est permis à l'homme. Et n'allez pas trop vite. Non, fondamentalement, c'est ça. D'abord, c'est qu'il y a le premier mouvement de Nietzsche, c'est précisément qu'il y a une équivalence qui s'instaure à partir de là, parce que l'évaluation des valeurs le conduit à dire tout ça c'est un arbitraire. Donc je ne sais pas comment on peut dire autrement, parce que c'est gênant, tout est permis, mais ça veut dire la même chose. Fondamentalement, le premier mouvement de Nietzsche, c'est tout est permis. Il faut entendre cela jusqu'au bout pour après voir comment Nietzsche reconstruit quelque chose. Mais si on ne va pas jusqu'au bout de son premier mouvement, on va être dans une facilité de pensée et quelque chose qui va nous rassurer. Il faut aller jusqu'au bout de cela. Alors, j'entends, on va y venir, que pour Nietzsche, c'est pas synonyme de nihilisme. Au sens où il l'entend. On va préciser ça. Mais on peut dire aussi que ça produit une autre forme de nihilisme. C'est le nihilisme contemporain qui est « je me fous de tout ». C'est le chaos. On est dans un chaos généralisé. Parce que le self-service, c'est ça. Chacun fait son petit truc, mais ça crée une impossibilité d'être ensemble, cela, fondamentalement. Et ça ne tient pas une existence, du coup, dans la durée. C'est un peu ce qui... C'est qu'en gros, le tout est permis, c'est un constat d'une équivalence généralisée des valeurs. Il n'y a pas de raison de dire qu'une valeur est supérieure à l'autre. Donc chez Nietzsche, c'est clair, mais aujourd'hui c'est clair, c'est une remise en cause radicale du bien et du mal. Le bien et du mal, c'est une invention arbitraire. C'est qu'en gros, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui reste ? Une pure subjectivité. Une pure subjectivité qui dégage un espace de liberté individuelle. Ce sur quoi Nietzsche appuie, c'est de dire, au départ, il y a une liberté individuelle. Point. C'est la liberté. Et toutes les morales, qu'elles soient d'origine métaphysique, c'est-à-dire philosophique ou religieuse, n'apportent plus parce que c'est du vent. Ce qui est compliqué dans l'abord de Nietzsche, c'est que Nietzsche a une pensée complexe parce qu'il y a plein de contradictions. Il y a des contradictions. Et donc, l'exemple type, c'est sur Socrate. Socrate, on peut dire que pour Nietzsche, c'est l'adversaire numéro un. Mais il y a d'autres textes de Nietzsche où il sauve complètement Socrate. Donc c'est compliqué. De même, ses deux ennemis apparemment, c'est Socrate et Jésus. Mais Jésus, c'est pareil. Jésus, c'est son pire adversaire dans certains textes. Et dans d'autres textes, Nietzsche sauve Jésus, trouve une positivité à Jésus à ce point vrai que Zarathoustra, dont on peut dire que c'est Nietzsche, à certains moments, Zarathoustra, on peut dire que c'est à la fois le dieu grec Dionysos, aussi Jésus. Ah ben oui, à certains moments, Zarathoustra, c'est Jésus chez Nietzsche. Et d'ailleurs, on pourrait montrer comment des passages entiers de Sarasustra sont superposables complètement à des passages des évangiles. Voilà, donc, je résume notre situation actuelle. On est dans ce balancement jusqu'à l'ivresse entre ces deux pôles. Où d'un côté, on va être attiré par cette aimantation d'une morale intégriste, de morales intégristes, et où d'un autre côté, on est dans une espèce de relativisme généralisé, qui produit l'équivalent généralisé, qui se traduit par le fait que la morale se met aujourd'hui sur le même plan, sur le modèle du marché économique. C'est-à-dire qu'en gros, le marché économique suppose un échange accéléré des marchandises qui suppose l'équivalence généralisée que permet la monnaie entre les marchandises. Et donc aussi, on est dans cette situation-là, ce relativisme généralisé qui est justifié par Nietzsche, par un nietzschéisme tardif, on va dire, qui est que les valeurs morales ne sont que des normes sociales et historiques totalement aléatoires. La question qui se pose, parce qu'on voit bien qu'à partir de ce mouvement de balancier, on est aujourd'hui dans une impasse. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une pensée, mais une pensée pour soi-même déjà, qui puisse dépasser pour soi-même et puis aussi pour vivre avec les autres? Est-ce qu'il y a moyen de penser un dépassement de cette opposition? Cette opposition entre ces deux pôles qui s'auto-entretiennent, parce que l'un justifie en permanence l'autre. Les tenants de l'intégrisme moral, ils justifient leur position en disant, regardez, le constat, c'est le chaos de l'autre côté. Et de l'autre côté, on dit, on a raison d'être dans le relativisme, parce que regardez ce que ça donne, les athéistes, c'est des totalitaires, c'est... Voilà. Donc, ce mouvement de balancier s'auto-entretient. Donc, est-ce qu'il y a moyen de sortir de ce tournis provoqué par ce balancier pour penser au-delà, quoi? La question, c'est donc de savoir comment faire, comment repenser la question de la morale en tenant compte de la critique radicale de Nietzsche qui s'est prolongée au XXe siècle, qui est que Dieu est mort et donc tout est permis. Et donc, comment s'affranchir des cadres qui sont devenus vermoulus, qu'on le veuille ou pas? Ils sont devenus complètement vermoulus, des cadres qui fondaient les morales jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le cadre de la métaphysique de Platon ou le cadre de la métaphysique chrétienne. Je dis chrétien dans notre horizon européen. Hein. Voilà. Alors, je pense que pour sortir de ce tournis, il faut effectivement avoir la patience d'entendre Nietzsche jusqu'au bout, y compris dans ses tentatives d'un dépassement, par-delà le bien et le mal. Alors, on va avancer là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut, dans un premier temps, comprendre le mouvement de destruction de Nietzsche, qu'il appelle donner des coups de marteau. Il détruit Nietzsche. Les coups de marteau, c'est son expression à lui. La philosophie du marteau. Et d'un autre côté, une fois qu'on aura compris cette philosophie du marteau, c'est qu'on ne s'illusionnera plus sur ce qu'est les mensonges et les impasses de la morale dont on a hérité. On va dire la morale traditionnelle, pour simplifier, ou les morales traditionnelles. Comment on peut comprendre le mouvement de reconstruction de Nietzsche? C'est ce qu'il a pensé, au fond, c'est une nouvelle morale qu'il a fondée, hein, qu'il a voulu fonder. Alors, le problème... Oui, mais c'était c'était un système qu'il, pensait, qu'il voulait construire. Donc ce n'était pas simplement pour lui, personnellement, c'était pour l'homme. Pour l'homme. Ce que je pense personnellement, mais je fais exprès de mettre les cartes sur la table pour que ça soit clair, c'est que Nietzsche a échoué. Nietzsche a échoué et c'est ce qui amène nos errements d'aujourd'hui. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce qu'il a fait ne permet pas de s'orienter aujourd'hui.
Oui, parce que c'est...
Son mouvement de destruction est salutaire, mais son mouvement de reconstruction ne donne rien. Oui, mais c'est pas possible. Ça ne tient pas. Les solutions individuelles ne tiennent pas parce qu'elles ne résolvent pas. La question très simple, c'est que comment on pense le rapport à l'autre. Et le rapport à l'autre n'est plus individuel. C'est l'illusion de croire que le rapport à l'autre est une affaire individuelle. Mais le rapport à l'autre n'est pas une affaire individuelle. C'est la grande leçon de Lévinas. Mais je ne sais pas pourquoi le rapport à l'autre n'est pas une affaire individuelle. Tout simplement parce que l'autre, il a son point de vue, qui n'est pas forcément le sien. Donc d'emblée, ça pose la question de la société. C'est-à-dire que son rapport à autrui, à l'autre, mais même l'intimité, même dans l'intimité, simplement, par exemple, dans l'intimité d'un couple amoureux, l'autre, c'est pas soi. Ou alors, on tombe dans l'illusion du fusionnel. C'est la catastrophe, on sait, on ne va pas développer, c'est la catastrophe. Donc l'autre n'est pas soi, c'est un autre. Donc son rapport à l'autre ne peut pas être pensé uniquement d'une morale purement individuelle, subjective, parce que on est dans l'intersubjectivité, on est dans l'inter-individualité. Donc on est dans quelque chose qui ne peut pas se penser uniquement à partir d'une morale individuelle. C'est ça l'impasse d'une pensée qui veut résoudre le problème du collectif par une morale individuelle. Pourquoi il a échoué? Pourquoi il a échoué? Parce que par rapport à la question qui est posée, il ne donne pas une réponse viable. Ce qu'on peut simplement dire, sans entrer dans la chose, parce qu'il faut avancer, c'est le constat que j'évoquais au début de ce balancier là, et de ce chaos actuel, si Nietzsche avait fourni une perspective viable au-delà des, qui est un dépassement des morales traditionnelles, c'est son projet, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui collectivement. Voilà, c'est simplement ça. L'échec, c'est déjà un constat empirique que je fais, un constat d'expérience empirique. Après, on va voir pourquoi le système qui propose ne tient pas.
Mais qui est inachevé.
Nietzsche, c'est pour ça qu'il est intéressant pour la question de la morale, parce que le paradoxe, c'est un homme qui est plein de paradoxes, de Nietzsche, c'est qu'il dynamite la morale, mais il ne se sort pas de la question de la morale. Pour lui, la morale est un problème, il le pose, on va le voir, comme un problème, mais il ne s'extrait pas de la morale. Et en particulier, je dirais que Nietzsche, et c'est ça sa grandeur, c'est un des personnages de l'histoire de la pensée en Europe qui a tenté le plus possible de vivre sa vie, son existence, en cohérence avec sa pensée. Alors le problème, c'est que ça a été jusqu'à la folie, mais on va revenir sur la folie. Mais on va revenir là-dessus. C'est en ce sens-là que c'est intéressant. Nietzsche est véritablement l'homme de sa pensée. Et il est impossible de séparer sa pensée et sa vie. Sa vie concrète. C'est impossible de séparer parce que l'un et l'autre sont complètement imbriqués. Autant certains philosophes, on peut dire même des philosophes du 19e, qu'au fond, ils avaient une pensée de salon, mais que leur vie n'était pas sous le joug de leur pensée, quand même, on peut le dire de beaucoup. Autant on ne peut pas le dire de gens comme Pascal, comme Rousseau, mais autant on ne peut pas le dire particulièrement de Nietzsche. Je pense qu'on peut le dire d'Heidegger, d'ailleurs, par certains aspects. Alors, quelques repères sur Nietzsche. À la lumière de cela, pour bien comprendre, donc Friedrich Wilhelm Nietzsche, on va se contenter de Nietzsche en français, est né, repère historique, en 1844. Dans une ville d'Allemagne qui est l'Allemagne du centre, d'Allemagne qui s'appelle Röcken, R-O-C-K-E-L. Il y a un très beau texte d'une écrivaine qui s'appelle Béatrice Comanger, qui a écrit un excellent livre qui s'appelle La danse de Nietzsche, qui est un livre d'écrivain, c'est pas un livre de philosophe, mais qui est un livre qui montre bien. La vie de Nietzsche au filtre de sa pensée. C'est un très beau livre. Et elle a écrit un texte justement sur la ville de Röcken, où la maison natale de Nietzsche a été. N'est pas du tout valorisée, d'ailleurs. Elle est visitable maintenant, mais enfin, elle raconte bien cette déception quand on va à Röcken, qui est une ville sans intérêt. Petite ville de province, toute petite, sans intérêt. Et la maison de Nietzsche, on peut même pas y aller comme ça. Bref. Donc, il est né à Röcken en 1844. Et il est mort, ça c'est facile à se souvenir, il est mort en 1900. Voilà. Donc, à l'aube du 20e siècle. Il est mort à Weimar. Weimar qui est en Allemagne. Alors, deuxième point important, c'est un fils de pasteur. Son père est un pasteur, alors pas calviniste. Grande différence, luthérien. Donc c'est un pasteur luthérien, ou plus exactement évangélique, mais à l'époque c'est luthérien. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout calviniste. Et il y a quoi tenir, parce que son grand-père enseignait la théologie. Il le dit dans plusieurs ouvrages, il dit qu'il a baigné complètement, dans un milieu marqué par la théologie et la morale chrétienne. Totalement. Et la ville, enfin tout. Alors, il y a un point aussi important, c'est qu'il marque, c'est que son père va être un protégé de Frédéric Guillaume IV, le roi de Prusse. Et il va être un protégé, son père et donc la famille de Nietzsche et Nietzsche lui-même, parce que son père a eu l'occasion d'être un précepteur d'un des membres de Guillaume, de Frédéric Guillaume IV. Ça permettra à Nietzsche, mais je vais le préciser après, d'accéder aux meilleurs établissements, aux meilleures écoles. Alors, un point important de son enfance, c'est que Nietzsche voit que son père va être atteint de souffrance, d'un mal, qui est probablement, sans doute, le même dont souffrira Nietzsche, qui est pris de très violents maux de tête. Et que du coup, mais je vais y revenir après, on peut expliquer peut-être par un lien héréditaire ce que certains appellent facilement la folie de Nietzsche. Mais on va y revenir après. Toujours est-il que ça avait les amener à déménager et à aller à Neuburg et à notre peu importe. Chose importante, Nietzsche aura une sœur, c'est-à-dire ses parents auront une fille, qui s'appelle Elisabeth. Et Elisabeth, ça va être le démon de Nietzsche, parce que Elisabeth se mariera bien plus tard, elle va vivre beaucoup plus longtemps que Nietzsche, et elle se mariera à un dénommé Forster, qui va être un antisémite de premier rang, qui va d'ailleurs aussi après vivre en Amérique latine. La sœur de Nietzsche va être complètement sous l'influence, même si c'est une femme forte de son mari, enfin va adhérer aux idées antisémites et nazies de son mari, et elle va tirer Nietzsche de façon posthume, et à travers les publications posthumes, dont elle a été un peu la dépositaire, enfin l'artisane, dans un sens complaisant pour le nazisme. Ce qui est un anachronisme complet, parce que
Nietzsche...
C'est pour ça qu'il y a un anachronisme à dire que Nietzsche était nazi, parce que non. Mais par contre, sa sœur a été nazie, parce qu'elle a vécu beaucoup plus longtemps et elle a entrepris l'œuvre de publication posthume où elle a manipulé des textes de Nietzsche,
dont la volonté de puissance,
le livre porte. Posthume de Nietzsche, et qui en fond, on peut s'intéresser, enfin il n'est pas de Nietzsche en réalité, il est de sa sœur. Sauf que l'expression volonté de puissance, on y reviendra, est un concept fondamental, une notion fondamentale chez Nietzsche, ce qui est toute l'ambiguïté, du coup c'est compliqué cette histoire. Nietzsche et sa sœur se trouvent orphelins très tôt, parce que son père avec ses maux de tête, etc., va tomber, faire une chute en 1848, donc c'est très très précoce pour Nietzsche, et va mourir un an plus tard. C'est-à-dire qu'en gros, il heurte les marges d'un escalier, et il ne va pas mourir tout de suite, mais pendant un an, il est fou en fait, il est égaré comme on dit. Donc il va avoir ce spectacle-là, le petit Nietzsche, d'un père qui pendant un an a perdu ses esprits, comme on dirait. Et au bout d'un an, donc, ça l'amène à la fin. Donc, il se retrouve orphelin. L'autre chose, mais je ne rentre pas dans tous les détails parce qu'on ne s'en sortirait pas, qu'il faut préciser, c'est que j'ai parlé de la sœur de Nietzsche parce qu'elle est importante. Il avait aussi un frère, Nietzsche. Mais ce frère meurt très tôt aussi. Donc Nietzsche est marqué par la mort des deux figures masculines de sa famille, c'est-à-dire que son père et son frère. Et ne va rester dans un premier temps que les deux figures féminines, la mère et sa sœur. Voilà. Ce qui est, à mon avis, pas sans importance. Le frère de Nietzsche meurt en 1850, donc c'est peu de temps après, et il est encore enfant. Je vous lis ce petit texte de Nietzsche à propos de la mort de son frère, qui, bien après coup, restitue bien l'état d'esprit de Nietzsche. En ce temps-là, je rêvais que j'entendais l'orgue dans l'église résonner tristement, comme aux enterrements. Et comme je cherchais la cause de cela, une tombe s'ouvrit rapidement, et mon père apparut marchant dans son linceul. Il traversa l'église et revint bientôt avec un petit enfant dans les bras. Dès le matin, je racontais ce rêve à ma mère, bien-aimée. Peu après, mon petit frère Joseph tomba malade. Il eut des attaques de nerfs et mourut en peu d'heures. Donc Nietzsche s'attribue un rêve prémonitoire, donc vous voyez en plus la culpabilité qui peut en résulter. Surtout que là, il est dans la culture chrétienne, il n'est pas chrétien. Donc, voilà, cette anecdote autobiographique écrite bien après est lourde de sens. Donc, en fait, c'est la mère de Nietzsche qui va élever sa sœur et lui-même. Donc, ils vont être pauvres, mais ils vont bénéficier de la protection, justement, de ce Frédéric Guillaume IV, qui va permettre à ce que les études de Nietzsche dans les meilleures écoles puissent être financées. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je passe sur les détails, ils ont déménagé, bon... Un élément important, parce que ça va le sauver de cette détresse, de cette misère, Nietzsche se met au piano et à 9 ans, il joue très sérieusement du piano. Il envisagera même d'être musicien. Pendant longtemps, il poursuivra et on retrouve le parallèle avec Rousseau, qui Rousseau d'abord a composé de la musique, un opéra célèbre de son époque, et a été un théoricien de la musique. Et Nietzsche, c'est pareil. Et il compose des œuvres qui sont accessibles, d'ailleurs, des pièces pour piano qui sont accessibles. J'ai eu la chance de pouvoir organiser un concert avec un pianiste français qui s'appelle Alain Kremski, qui est spécialiste des œuvres de Nietzsche. Et honnêtement, c'est pas extraordinaire. Voilà, donc il se met au piano dès l'enfance, hein, et il compose très jeune, il compose des fantaisies, des mazurkas, des... Voilà. Et puis, en même temps, il écrit de la poésie. Les arts l'intéressent, alors c'est un enfant très curieux. Il va même s'intéresser à la balistique, une discipline militaire, si vous voulez. Ah, il écrit des tragédies pour ses enfants, il s'intéresse au théâtre, etc. Alors, il va être envoyé au collège de Forta, P-F-O-R-T-A, qui, en Allemagne, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, est une institution des plus prestigieuses, où il va faire toutes ses études qu'on dirait secondaires, quoi. Université, si vous voulez. Et c'est une institution qui existe encore aujourd'hui, qui est encore auréolée d'un prestige certain, si vous voulez. C'est un peu comme les collèges, on va dire, c'est pas l'équivalent, parce que c'est en même temps, en Allemagne, pas dissociable de la religion. Donc on pourrait, j'allais dire, équivalent des lycées Louis le Grand ou Henri IV, sauf que Louis le Grand et Henri IV, c'est complètement laïque, ce qui n'est pas le cas en Allemagne. Je dirais que c'est l'équivalent, si vous connaissez, aujourd'hui il est beaucoup moins connu, mais à une époque, du collège, qui était un lycée, Stanislas, il existe toujours à Paris, le collège et le lycée Stanislas, vous voyez ce que c'est ? Bon, qui a été créé et développé par les jésuites. Bon, je dirais que c'est plus l'équivalent en prestige de Stanislas. Là, il fait des études extrêmement brillantes. Brillantes, mais en même temps, très tôt, il s'intéresse sur Dieu. Sur la pertinence de l'existence de Dieu. Et... Oui, il s'interroge très tôt sur la pertinence de l'existence de Dieu. Et ça va aboutir assez jeune. Donc, ça va lui valoir des problèmes au collège de Forta. C'est-à-dire qu'en gros, il va apparaître comme un dissident. Oui, c'est pas Jésus, des questions qui sont posées. Nietzsche, il y a des légendes qui circulent beaucoup pendant cette période collège. Alors, il faut se méfier des légendes sur des personnages comme Nietzsche. C'est pas attesté historiquement, mais on dit qu'il avait une discussion avec des camarades à propos d'une figure de l'histoire qui chrétienne, qui avait eu le courage de plonger ses mains dans le feu. Et vous savez, un peu à la manière des hindous qui traversent des braises, etc. Et on ne le croyait pas, ses camarades disent, mais tu racontes des histoires, c'est pas vrai, ce type n'a jamais pu se mettre la main dans le feu. Et pour prouver que c'était possible, Nietzsche l'a fait. D'autres, il va commencer très tôt, donc aussi après, peu à peu, à s'intéresser à la philosophie, à faire des écrits philosophiques, alors qu'il est encore au collège. Et il va avoir l'occasion, lors de vacances, de circuler en Allemagne, à Iéna, à Weimar, avant de définir sa vie. Et il dit ceci à propos de cette période, « C'est ma vie que je découvre. Même en ce beau monde, il y a des malheureux. Mais qu'est-ce donc que le malheur ?» C'est-à-dire qu'on voit à travers cette phrase que naît, et ça c'est un point important, naît chez Nietzsche, très tôt une conscience qui est probablement son refus du christianisme qui se constitue et du bain chrétien dans lequel il est, qui l'amène à douter du bien fondé de l'apitoiement sur les malheureux. C'est en ce sens-là qu'il ne va pas du tout être dostoïevskien. C'est-à-dire qu'en clair, Nietzsche va développer une pensée où la pitié n'a aucune place. Et le malheur des autres n'a aucune place. Et qu'il renverse complètement la perspective, et on le voit, ça se dessine, sa conscience du monde, dès cette époque-là. Il a une conscience du monde qui est complètement l'inverse des évangiles chrétiens. En gros, il récuse complètement les préceptes du type « les premiers seront les derniers » ou « heureux les pauvres en esprit, heureux les miséreux, etc. » Toute la morale qui amène la charité chrétienne de s'intéresser aux pauvres, Nietzsche, et dès cette époque-là, la rejette violemment. N'essaie pas d'emblée de sauver Nietzsche, il n'a pas besoin d'être sauvé. N'essaie pas d'emblée de le sauver, il n'a pas besoin d'être sauvé, en polissant, en supprimant l'âpreté de sa conscience du monde, de sa pensée du monde. Si tu veux, ce que tu dis n'est pas perceptible comme tel par Nietzsche qui vit dans un milieu protestant, qui n'est pas dans l'Église catholique, qu'en Allemagne. C'est pas ça son problème. Parce que ça, il l'applique pour lui-même. C'est-à-dire qu'en gros, Nietzsche aura une vie au fond misérable et de souffrance, et en aucun cas, il ne supporte que l'on puisse s'apitoyer sur son sort. Et lui-même, sa conscience de lui et de son existence refuse toute forme d'apitoiement sur lui-même. C'est beaucoup plus radical, si tu veux. C'est être pauvre, être malheureux n'est pas pour lui une valeur. Le christianisme est une valeur, enfin une valeur qui va être reprise par le marxisme et le communisme, d'où le messianisme de la classe ouvrière. Le messianisme de la classe ouvrière découle directement de la pensée chrétienne, de la morale chrétienne, chrétienne catholique en tout cas clairement, mais aussi protestante, cette morale chrétienne qui renverse la hiérarchie sociale. C'est-à-dire les pauvres, les miséreux, les derniers doivent être les premiers. Le messianisme vient de là, et la figure de Jésus incarne cela. Jésus se dépouille de tout. Voilà. Ça, c'est profondément la morale chrétienne qui va nous nourrir tous, on ne peut pas s'en déprendre, qui va nourrir toute la pensée communiste, qui va nourrir, allons plus radicalement, toute la gauche, toute la pensée de gauche. La pensée de gauche est nourrie de cela. Ne nous racontons pas l'histoire, c'est un fait tout à fait démontrable. Nietzsche, dès son adolescence, refuse cette hiérarchie inversée des valeurs du christianisme. Et donc, lui, pour Nietzsche, encore une fois, être misérable, il y a des textes sur lesquels je reviendrai après, être malheureux au sens matériel ou moral n'apporte aucun élément de valeur. On n'a pas à se préoccuper de ça. Pardon ? Pour Nietzsche, on va préciser, c'est neutre. Au départ, c'est neutre. Du point de vue des valeurs, c'est neutre. Ce n'est bien ni mal, c'est neutre. Qu'on soit pauvre, c'est neutre. Qu'on soit riche, c'est neutre. Et pour lui, il n'y a aucun messianisme, parce que là, il se rend compte de ce qu'il a appelé l'hypocrisie et le mensonge de la morale chrétienne. Alors, il y a une forme de réaction, oui, oui. C'est intéressant que tu utilises le terme d'énergie que Nietzsche n'utilise pas. C'est intéressant parce que où on voit que notre monde contemporain est nietzschéen, sans s'en rendre compte. C'est ça la difficulté de pensée puissante. C'est qu'on peut penser dans l'héritage, dans le sillon d'une pensée, sans s'en rendre compte. Et c'est ça qui est aussi dangereux. Et j'en veux pour preuve que notre monde est nietzschéen, et qu'on est tous nietzschéens, parce qu'aujourd'hui, une notion qui revient dans tous les discours, c'est énergie, l'énergie. Vous entendez partout aujourd'hui parler d'énergie. Et ça, c'est un héritage direct de la pensée nietzschéenne. Ah, il y a une énergie là. Beaucoup de gens parlent, y compris par exemple d'un groupe de musique. Les jeunes disent beaucoup ça. Il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie. Eh bien, l'énergie, ça correspond ou la réhabilitation aujourd'hui de la notion de puissance, notamment dans le féminisme. C'est directement nietzschéen. Et c'est pensé au titre de livre qui a eu un succès fou et, de Marine Diagne, « Trois femmes puissantes ». Et aujourd'hui, si vous écoutez bien les discours, le terme de puissant, puissante, puissance, revient constamment, comme énergie. Ah, il y a de l'énergie, ah, il y a de l'énergie. Voilà. Eh bien, tout ça, c'est un discours profondément nietzschéen. C'est-à-dire, on pense nietzschéen sans forcément s'en rendre compte. C'est-à-dire, la prégnance de cette pensée-là. Alors, poursuivons rapidement. Mais c'est, enfin, c'est pas si simple que ça. On va le voir. On va le voir. Pourquoi c'est pas simple? Mais je suis obligé d'anticiper ce qui m'énerve un peu. C'est que vie, la vie chez Nietzsche, on peut parfaitement dire que c'est un transcendantal. C'est devenu un transcendantal. C'est-à-dire que le piège, c'est que Nietzsche, qui supprime tout premier principe, va en fait faire de la vie, avec un grand V, un transcendantal. C'est en sens-là qu'il échoue. La vie, ça se substitue au bien ou au mal, mais c'est un transcendantal. C'est-à-dire que c'est un principe qui est supérieur à chacun, pour dire qu'il voulait s'intéresser, il s'intéressait même de façon critique à la théologie. Bon, il voulait devenir musicien, mais sa mère va le dissuader de cela. Bref, il s'intéresse aux enseignements positifs de la période, c'est le début des sciences, de la science, le 19e siècle, des sciences naturelles, des sciences physiques, pensée Newton, pensée aussi une figure essentielle sur laquelle on reviendra peut-être, Darwin, l'évolution de l'espèce. Nietzsche pense à partir de Darwin, et va le critiquer, mais il pense à partir de Darwin. Spencer, qui est tout ce qu'il appelle les psychologues britanniques. Voilà. C'est la naissance de la psychologie. Voilà. Donc, il est contaminé par ces pensées nouvelles auxquelles il va s'intéresser vivement. Il va beaucoup lire et il a une période de doute qu'il exprime de façon intéressante. Est-ce qu'il va abandonner son héritage philosophique, moral, issu de la métaphysique platonicienne et chrétienne? Est-ce qu'il abandonne ça pour les nouvelles pensées scientifiques? Ou est-ce qu'il résiste et qu'il reste attaché à son cadre pensée traditionnel? Pour lui, c'est une vraie question. Qu'il exprime après coup de cette façon-là, par rapport à son questionnement, qu'est-ce que l'humanité? Nous le savons à peine. Un degré dans un ensemble, une période dans un devenir. Une production arbitraire de Dieu? L'homme est-il autre chose qu'une pierre évoluée à travers les modes intermédiaires des flores et des faunes? Son écriture est très belle. Hein. Est-il dès à présent un être achevé? Que lui réserve l'histoire? Ce devenir éternel n'aura-t-il pas de fin? Se risquer sans guide ni compas dans l'océan du doute. Cette perte est folie pour un jeune cerveau. La plupart sont brisés par l'orage. Petit est le nombre de ceux qui découvrent des régions nouvelles. Donc, il est pris d'un vertige. Il sent bien que tout ça est dangereux, d'abandonner les cadres qui tiennent. C'est se confronter à l'orage et au risque d'être brisé. Alors, il dit ça d'autant plus que c'est en même temps la même période où il commence sérieusement à voir comme son père, à la fois des maux de tête épouvantables et y compris des troubles visuels. Ce qui est lié, d'ailleurs. C'est la fin, alors l'âge exact, je ne sais plus, mais c'est la fin de la période du collège, des études secondaires, pour le dire en termes contemporains. Voilà. C'est avant qu'il engage ensuite l'université. Donc s'ouvre une nouvelle période qui est l'entrée à l'université. En 1864, donc il a 20 ans, il a terminé brillamment ce collège. Alors collège c'est au sens américain, hein, c'est-à-dire que c'est, on appellerait ça lycée, quoi. Hein. Ouais. Il rentre à l'université de Bonn. Bonn en Allemagne, la ville, qui a été la capitale de la RFA à l'époque. Et là, il se mêle à la vie étudiante, mais il restera très réservé. À la fois, il participe de la vie étudiante, mais en même temps, il sera solitaire. Il aimera les promenades solitaires, seul, le long du fleuve, etc. En fait, il ne se sent pas très à l'aise dans le milieu étudiant. Il préfère la solitude, pardon. Et par exemple, il déteste les fêtes de fin d'année. Les fêtes. Il préférera passer les fêtes seul. Alors, dans les études, par contre, il s'accroche aux études. Enfin, il rejette la vie étudiante où il se sent mal à l'aise, mais il s'accroche aux études. Il va faire d'abord des études de philologie. Et ça, c'est essentiel. Alors, la philologie, c'est quoi? C'est pas la philosophie. Sauf qu'en Allemagne, et encore aujourd'hui, la philologie et philosophie, c'est très proche. Alors qu'en, hélas, en France, ça reste complètement cloisonné, ce qui est une catastrophe. La philologie, c'est l'étude scientifique, qui se veut scientifique et qui a toutes les méthodes et l'exigence de la science, des textes anciens, quels qu'ils soient, et en particulier des textes grecs et latins de l'Antiquité. C'est l'étude scientifique qui consiste à ce qu'on appelle l'établissement des textes. C'est quoi l'établissement des textes? C'est que, hélas, ou pas hélas, tous les textes de l'Antiquité, mais ça peut être aussi des textes orientaux, hein, de philosophie orientale, musulmane, bouddhiste, hindouiste, n'importe. Tous ces textes anciens ne nous sont pas parvenus tels quels. D'autant plus qu'il n'y avait pas de livres imprimés. Gutenberg, c'est un peu vieux.
Donc il a appris,
c'est des textes.
Il a appris le grec et le latin.
Ah ben, complètement, complètement. Mais non seulement le grec et le latin, mais aussi l'hébreu. Alors l'hébreu, c'est aussi une nécessité liée à sa culture chrétienne. Quoi. Il s'intéresse à l'hindouisme. Il s'intéresse du coup au sanskrit. Mais restons-en au latin et au grec, ça va être déterminant. Il se trouve qu'on n'a que le plus souvent, quoi, sur les textes de Platon, des épicuriens, des stoïciens, et encore plus de ceux qu'on a appelés les pré-socratiques, c'est-à-dire avant Platon, donc Démocrite, Parménide, Héraclite, etc. On a soit des fragments de texte. Donc il faut recoller les fragments avec des trous. Donc les trous, il faut être capable de penser ce qui articule les fragments pour avoir un texte cohérent. Les fragments,
c'est
ça peut être sur tous les supports de l'époque, ça peut aller de la pierre au parchemin et autres. Voilà. Ou alors, on a le plus souvent quelque chose qui n'est pas mieux que les fragments, des copies tardives. Parce que vous savez qu'une grande activité intellectuelle de l'Antiquité, puis après, dès le début du Moyen-Âge, c'est l'activité de copistes. Les copistes, c'était des intellectuels, hein, qui recopient les textes. Le problème, c'est un copieur. Le problème, c'est que main trompe main, comme aurait dit l'autre. On peut faire des erreurs. On recopie mal, on fait des erreurs. Des erreurs qui peuvent changer le sens de mots. Surtout quand les erreurs, elles sont faciles quand il y a deux mots très proches. Deux mots très proches, il y a juste une lettre qui les différencie. On se trompe de lettre. Mais c'est ce qu'on fait, nous aussi. L'erreur, de ce point de vue-là, est facile quand on recopie des textes. Mais une erreur à une lettre près peut complètement changer le sens du mot. D'autre part, il y a parfois des trous, des manques. Et troisièmement, il y a aussi la tentation pour un copiste de l'interprétation à sa sauce. Donc il y a des déformations. Donc les textes qui nous parviennent à travers les manuscrits ultérieurs de tout le Moyen-Âge, et après même la Renaissance et tout ça, ce sont des textes qui ne sont pas purs, on va dire ça comme ça, qui ne sont pas purs par rapport à l'original qu'on perd. Alors comment on peut s'en sortir pour retrouver le texte original ou le plus près possible? C'est que, heureusement, en tout cas pour beaucoup de tous les grands textes de l'Antiquité grecque et romaine, il y a eu plusieurs copistes qui se sont basés sur différents textes originels. Donc, si vous voulez, c'est comme un arbre avec plein de ruisseaux. Ça part, depuis la source de départ, il y a plusieurs ruisseaux. Et donc, le travail du philologue consiste à confronter toutes les versions, tous les manuscrits, pour réussir à partir de là, par comparaison, et aussi par une connaissance très forte de l'Antiquité grecque, romaine et des auteurs, à s'approcher le plus près possible du texte originel. Ça, c'est le travail scientifique du philologue. D'accord ? Donc, c'est un travail scientifique qui permet de connaître magnifiquement les textes anciens. Oui, mais la traduction, c'est pas le même problème, parce que... Oui, mais... La grande différence qui ne fait pas appel à la philologie, c'est qu'on a le texte original. Donc ça change tout. Après, c'est qu'une question d'interprétation dans la traduction. Mais le texte original, on l'a. Unique, on l'a. Ce qui n'est pas le cas des textes de l'Antiquité. Juste un mot encore sur la philologie. En France, la philologie et la philosophie sont des disciplines séparées. D'un côté, on a des savants qui s'interdisent de penser, d'avoir une pensée philosophique. Et d'un autre côté, les philosophes qui s'appuient sur le travail des philologues sans les contester, sans les mettre en doute, et qui, à partir de là, de ce matériau, tentent de penser. En Allemagne, traditionnellement et encore plus du temps de Nietzsche, il n'y a pas ce cloisonnement. C'est-à-dire que philosophie et philologie se mélangent facilement, ce qui explique que Nietzsche va passer sans problème de la philologie à la philosophie, voilà. Et que ses premiers grands textes, enfin certains de ses grands textes de philosophie, sont des textes pétris de philologie. D'accord, voilà. Donc il fait ses études de philologie, mais il est poursuivi par un questionnement de pensée, ce qui fait qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout des études de philologie. Au fond, il se rend compte que ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse à Nietzsche, ce n'est pas l'établissement rigoureux des textes, même s'il est excellent, c'est s'appuyer là-dessus, mais c'est surtout développer une pensée personnelle, une philosophie personnelle. Alors, ce qui lui donne le vertige par rapport à la position de philologue, il le résume bien dans une lettre à sa sœur, qui est une lettre de l'époque, où il dit, c'est ça, pour un véritable chercheur, donc le chercheur c'est le philologue, le résultat de la recherche n'est-il pas indifférent? Alors, ce dont il se rend compte, et c'est vrai, c'est que le philologue, il est tellement grisé par sa démarche qu'au fond, il s'intéresse plus au but qu'il poursuit. Ce qui l'intéresse, c'est la mécanique comme telle. Et ça n'intéresse pas Nietzsche, il se rend compte. Donc, le résultat de la recherche n'est-il pas indifférent? Dans notre effort, que cherchons-nous? Le repos, le bonheur? Non, rien que la vérité. Toute effrayante et mauvaise qu'elle puisse être. C'est-à-dire que Nietzsche va mettre en cause non seulement le bien et le mal, mais la notion de vérité. Or, la vérité, c'est le fondement de la science. Et Nietzsche remet en cause la science. Donc il va remettre en cause la philologie comme science, pour s'intéresser uniquement au questionnement. Bon, il faut qu'on en reste là, parce que j'ai pas le temps. Donc vous voyez, le vertige quand même que donne la pensée de Nietzsche, c'est-à-dire qu'en gros, il va falloir penser en dehors, une conduite de vie en dehors du bien et du mal, mais en dehors de la vérité, et en se passant dans l'illusion de la science. C'est du peu, mais là...
L'essence de la tragédie.
Qui a l'essence très nourrie de philologie.